On va ouvrir nos Bibles ce matin dans l'évangile de Jean, chapitre 21. On va le garder un petit peu sous le coude. Les versets seront proposés là aussi avec la vidéo. Mais je pense que ce récit, c'est un des textes les plus encourageants pour nous rappeler que Dieu est notre Dieu, est le Dieu des nouvelles opportunités. Des nouvelles opportunités. En effet, dans ce récit, Jésus, d'une manière collective, mais aussi individuel, va redonner de l'espérance à des disciples suite à leur comportement, leurs attitudes qui ont entouré bien l'arrestation, le procès, la condamnation, la crucifixion. On se sent misérable, on se sent mal à l'aise. C'est peut-être une parole qui nous a échappé cette semaine ou il y a quelques mois. C'est une attitude qui est devenue une habitude, et puis qui revient, qui remonte du passé, qui s'est installé, et qui nous déstabilise complètement. C'est peut-être un engagement qu'on n'a pas tenu, qu'on n'a pas pu tenir, qu'on n'a pas voulu tenir, etc. Et d'autres raisons. Et pour toutes ces raisons, on se dit ce matin, bien, finalement, ben, je ne suis pas à la hauteur. C'est un comportement aussi que nous regrettons. Et si on vit cela ce matin, comme ces disciples, il y a une bonne nouvelle. C'est que si on ne s'en sent pas à la hauteur, Jésus, lui, va nous rencontrer, veut nous rencontrer dans notre malheur. Jésus veut nous donner une autre opportunité, une autre chance. J'aime pas le mot chance. Bon, vous comprenez peut-être un peu pourquoi, parce que la chance, souvent, elle est liée au hasard, etc. Alors, l'opportunité me va mieux. Une autre opportunité de vie. Une autre opportunité de comportement, de délivrance, de secours. Mettez tout ce que vous voulez derrière. Mais ce texte de Jean 21, cette rencontre, nous rappelle. Jérémie 29, 11, nous dit ceci. C'est un autre contexte. 70 ans de captivité à Babylone pour le peuple, à cause de sa désobéissance. Et pourtant, vous connaissez bien sûr ce beau verset. À un moment donné, Dieu va dire, eh bien, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. D'une manière collective, oui, le peuple s'était détourné de Dieu, mais d'une manière collective, eh bien Dieu va leur donner une autre opportunité, une deuxième opportunité pour qu'ils puissent revenir au Seigneur et continuer à le servir. Alors une première pensée ce matin, pourquoi, eh bien Jésus nous propose-t-il une autre opportunité, quelles que soient finalement les raisons de notre éloignement. La première pensée, c'est que c'est peut-être étonnant, mais Jésus n'est jamais surpris par notre comportement. Jésus n'est pas surpris par notre comportement. Il y a parfois des faits divers, on connaît des événements qui nous surprennent, qui nous étonnent et qui nous déstabilisent même peut-être. On se dit, mais comment cela est possible? On pensait que cette personne était au-dessus de tout soupçon. Dans des affaires parfois douloureuses, excusez-moi, c'est souvent monsieur tout le monde ou alors quelqu'un et on tombe des nues. On se dit, mais ce n'est pas possible. On est surpris, on est étonné. On n'aurait jamais pensé que cette personne puisse se comporter de cette manière. Concernant les disciples de Jésus, eh bien, le maître savait exactement, bien, finalement, même en les choisissant, qui ils étaient. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est qu'il va les choisir. Vous avez déjà réfléchi à ça, hein? Ah, si j'avais été Jésus, j'aurais choisi certainement d'autres. Parce que c'était, excusez-moi, une drôle d'équipe. Il y en avait un même, Judas, qui allait trahir le maître, on le sait, qui va devenir traître. Et Jésus, en les choisissant, savait exactement bien qui ils étaient. Jean 6, 70 nous dit ceci, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un démon ?» Et puis, Matthieu 16, 21, il commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et puis qu'il souffre beaucoup. Et puis là, j'ai dit, tiens, on va lire ce texte, c'est dans Matthieu 26, 30, c'est un des plus caractéristiques. Voilà ce que dit Jésus, quelque temps auparavant son arrestation, il va dire ceci dans Matthieu 26, 30. « Après avoir chanté des psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous. Vous trébucherez tous cette nuit. Et à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Alors on connaît Pierre, hein, ensuite, qui prend la parole, qui dit, même si tu serais une occasion de chute pour tous, moi, on connaît, et on parlera tout à l'heure de Pierre. Mais ce que je veux nous rappeler ce matin, c'est peut-être paradoxal, mais Jésus n'est pas surpris ni déçu de nos égarements. Il en est certainement attristé, on est bien d'accord. Mais il n'est pas surpris, il n'est pas déçu, et c'est ce qui lui permet toujours de nous proposer une autre opportunité lorsque nous ne sentons pas à la hauteur. En effet, si on réfléchit un petit peu, la déception, hein, si Jésus était surpris et déçu de notre comportement, pourrait engendrer, par exemple, le mépris, pourrait engendrer le rejet, pourrait engendrer l'oubli. Ah, quand on réagit par rapport à une personne, « Oh là là, qu'est-ce que je suis déçu, qu'est-ce que je suis surpris de son comportement ?» Eh bien, on peut avoir parfois des réactions d'éloignement, de dire « Oh, si c'est comme ça, moi, je me retire. Si c'est comme ça, je ne le connais plus. Si c'est comme ça, je ne la connais plus. » Mais comme Jésus n'est pas surpris, n'est pas déçu, certes, je répète, il peut être attristé, c'est un autre domaine de sentiment, alors parce qu'il n'est pas déçu, parce qu'il n'est pas surpris de notre comportement, eh bien Jésus nous propose toujours et encore une deuxième opportunité. Quel que soit, j'allais dire, eh bien l'objet de notre honte, quel que soit l'objet ce matin de ce sentiment, je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à hauteur dans tel domaine, j'ai failli, je suis honteuse de moi-même, etc. Je ne suis pas à la hauteur. Voilà pourquoi ce matin, Jésus nous offre une autre opportunité. Parce qu'il n'est pas déçu, il n'est pas surpris, il nous connaît. Il connaît notre cœur, il connaît nos comportements, il connaît nos faiblesses, il connaît tout de nous comme il va connaître ses disciples. Et pourtant, il va les choisir. Il va les choisir. Et puis, une deuxième pensée, pourquoi Jésus nous propose une autre opportunité, c'est parce qu'il connaît les effets de ce sentiment dans nos cœurs. Et c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur lorsque nous déclarons, lorsque nous vivons cette réalité, « Je ne suis pas à la hauteur ». Il y a un texte extraordinaire, hein, c'est Ésaïe 57, versets 14 à 16, il va s'afficher et on va le lire ensemble. On dira « frayez, préparez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ramener les esprits humiliés, afin de ramener les cœurs contrits. » Et puis la suite extraordinaire, « Je ne veux pas contester pour toujours, ni regarder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. » Et puis encore peut-être la suite, hein, où il est question justement de cette faiblesse, en tout cas une autre traduction, hein, nous parle d'un cœur qui est faible, Dieu nous a créés de cette manière, et il sait que nous sommes faibles. Je suis avec le cœur qui est contrit, avec l'esprit qui est brisé. Quelle parole pour nous ce matin ? Alors, ces paroles, si vous remarquez, ne sont pas pour tout le monde. Ces promesses ne sont pas pour tout le monde. Elles sont pour ceux qui ont le cœur contrit, pour ceux qui ont le cœur humilié. C'est-à-dire qu'ils sont mal à l'aise avec leur conscience devant Dieu lorsque, eh bien, nous réalisons notre détresse, notre misère. Alors, Dieu fait des promesses, il dit, je ne contesterai pas éternellement, mais je serai avec le cœur contrit et humilié. Ces paroles ne sont pas pour tous, mais elles sont ce matin pour ceux qui ne cherchent pas des excuses, ceux qui ne cherchent pas à atténuer peut-être leurs propres difficultés, ceux qui ne veulent pas reconnaître leurs faiblesses. Mais ces paroles ce matin, elles sont pour tous ceux qui ont un cœur contrit, pour toutes celles et ceux qui sont peut-être venus ce matin en confessant, en disant « Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur Seigneur, et j'en ai honte, et tout cela bien sûr me déstabilise. » Jésus connaît les effets lorsque nous nous sous-estimons. Jésus connaît ses effets lorsque nous sommes dans notre cœur animés de ce sentiment. Alors, quelques effets, mais il y en a peut-être d'autres. D'abord, eh bien, on se sous-estime davantage. Je ne suis pas à la hauteur. On se sous-estime davantage. On n'ose plus, ou nous ne pouvons plus, ou nous n'osons plus témoigner de Jésus. À quoi ça sert de témoigner de Jésus dans l'état où je suis? Et alors, bien sûr, eh bien, on se sent indigne de sa grâce. On se sent indigne. Ça fait tellement, Seigneur, de temps que je te connais, et pourtant, on est paralysé. On est bloqué dans notre croissance spirituelle. On est statique. On a l'impression qu'on fait du surplace, voire qu'on régresse. Je ne suis pas à la hauteur. Et Jésus, ce matin, connaît exactement les effets destructeurs de ce genre de paroles dans notre vie, ce qui se passe à l'intérieur. Nous sommes comme Pierre. Jean 21, 3, il dit trois mots en français. C'est très facile. Il y a un sujet, un verbe, et puis, il y a deux verbes. Enfin, vous allez, je vais pêcher. Je ne sais même pas comment. Hein. J'ai pas toujours été très bon en français. Je vais pêcher, voilà. Alors, en hébreu, c'est peut-être autre chose. Mais je vais pêcher, trois mots. Trois mots qui, en français, finalement, résument son état d'esprit à ce moment-là. Même s'il a déjà rencontré le Christ, eh bien, ressuscité, Pierre est résigné. Pierre est résigné. On a l'impression que sa vie de disciple, elle est derrière lui. Derrière lui. Et puis, parce qu'il a trahi le maître, hein, malgré ses déclarations fracassantes, « J'irai au bout, je serai le seul avec toi », on connaît comment... Et Pierre, bien sûr, eh bien, désormais, il retourne à son ancienne vie, à ce qu'il connaît. Il dit, bien, c'est fini. Le discipola, ce que j'ai vécu le Seigneur, tout ça c'est derrière moi. Et il dit, bien, je vais pécher. Il retourne à son ancienne vie. Et c'est ce qu'on peut parfois connaître lorsqu'on ne se sent plus à la hauteur. Lorsque, pour toutes sortes de raisons, on a l'impression où on est dévalorisé. Lorsque on vit des situations d'échec, peut-être à répétition. Alors, on ne se sent plus à la hauteur, et puis finalement, bien, on peut être tenté parfois de revenir en arrière, de revenir à certaines habitudes, à certaines mêmes attitudes. On a l'impression, comme Pierre, d'avoir trahi, bien sûr, Jésus, et puis, bien, par une chute, une infidélité, et notre vie de disciple s'arrête. Et puis, on peut reprendre de vieilles habitudes, de vieux comportements, une vieille façon de penser, etc., etc. Entre parenthèses, tout ça nous plonge un peu plus dans ce sentiment. Hein. Vous avez remarqué comment on est. Hein. Plus on y pense, plus on est attiré vers le bas, plus on se sent moins à la hauteur, etc. Et c'est un cercle là aussi qui est destructeur, mais c'est un cercle que Jésus veut briser aujourd'hui. Amen. Jésus veut briser ce cercle destructeur. Eh bien, je ne suis pas à la hauteur. Ne retournons pas en arrière, mais laissons Jésus accomplir son œuvre en nous ce matin. Laissons-le là aussi transformer nos vies, laissons-le nous interpeller. Alors comment Jésus va-t-il s'y prendre avec nous qui sommes venus avec ce sentiment « je ne suis pas à la hauteur » et finalement on pourrait tous dire que dans un certain domaine ou dans plusieurs domaines, eh bien, il y a ce sentiment. Et ce sentiment, Seigneur, je ne suis pas à la hauteur. Alors, c'est là qu'on va lire notre texte, c'est là qu'on va le découper. Jean 21, 4 nous dit ceci, déjà. « Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. » Comment Jésus veut-il briser ce cercle destructeur « je ne suis pas à la hauteur » Bien, la première pensée, c'est qu'il vient sur le terrain de notre échec. Il vient sur le terrain de notre honte. Il vient sur le terrain de notre éloignement. Jésus se déplace. Jésus se déplace. Et puis, il se met à notre niveau, à notre portée. Hein, même si au départ, on n'a pas encore conscience. Il est dit qu'ici, il ne savait pas que c'était lui, etc. C'était certainement peut-être l'aube. Et puis, il n'avait pas fait attention. Mais Jésus va se déplacer sur le terrain de leur honte, de leur éloignement. Sur le terrain de leurs anciennes habitudes, c'est Jésus qui se déplace parce que nous, on peut pas. On est dans notre sentiment, on est dans notre réalité. J'aime bien cette histoire, là aussi, d'un, d'un enfant, c'est la rentrée, c'est la maîtresse hein, qui essaie de faire comprendre aux enfants bien les mesures, la taille, le poids, etc., etc. Alors, elle demande finalement bien quelle taille a ton papa et à ta maman. Voilà. Donc, il y en a un qui dit bah il est grand, il est plus grand, etc. Et puis chacun essaye pour c'est une classe certainement de CP. Et puis à un moment donné, une petite fille répond à cette question. Elle a l'air un petit peu embarrassée. Et puis, elle a une idée. La maîtresse insiste. Mais quelle taille a ton papa lorsqu'il te parle? Et là, cette fillette a un éclair dans ses yeux. Elle dit, mais mon papa, quand il me parle, eh bien, il se penche vers moi. Il se penche vers moi. Et ce matin, c'est l'attitude de Jésus. Jésus vient à notre rencontre sur notre terrain de la honte, de l'échec, de l'éloignement. Il vient parce que nous, on ne peut pas faire ce pas. C'est lui qui se déplace. Il est descendu, la Bible nous dit, hein, nous savons, de son ciel de gloire. Mais ce matin, bien, oui, Jésus n'a pas honte de mettre les pieds sur le terrain de notre honte, de notre échec, de nos faillites, de nos failles, de nos chutes. Il n'a pas honte. Et il le fait pour chacun d'entre nous. Comme il va le faire, Jésus se trouvait d'abord sur le rivage. La suite nous dit ceci. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et il ne parvint pas à le retirer tant qu'il y avait de poissons. Deuxième pensée, Jésus va manifester un signe de reconnaissance et de bienveillance. Jésus manifeste un signe de reconnaissance et de bienveillance en faveur des disciples, en notre faveur. Ce miracle, ils l'ont déjà vécu, vous en souvenez? Hein, c'est dans Luc 5, 4, 10, au début du ministère de Jésus, où il est en train d'enseigner la foule, et puis il a pris en location une barque, hein, celle de Pierre. Alors Pierre est bien embêté, et bon, il peut pas s'en servir, il peut pas réparer les filets, il peut pas la nettoyer pour une prochaine pêche. Il se dit, ma journée, ma nuit va être gâchée, etc. Mais Jésus, nous le savons, hein, est plein de bienveillance. Et il va dire ensuite, avance en plein eau, etc., et puis jeter le filet. Et là, il y a le miracle. Il y a le miracle de cette première pêche miraculeuse. Et puis cette parole tout de suite de Pierre qui dit à Jésus, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Ouais. Jésus ne va pas s'éloigner, au contraire. Hein. Il lui dira, bien, tu seras désormais un pêcheur d'homme. Et ça, c'est un signe de reconnaissance. Pierre a reconnu, a assimilé tout de suite. Et ça éveille, ça réveille sa conscience, bien sûr. Et Pierre va se jeter à l'eau dans ce texte. La conscience de le rappel de la bienveillance de Jésus. Jésus sait se faire connaître, reconnaître. Il connaît nos spécificités et il connaît la meilleure façon de se faire connaître, reconnaître à nous. Jésus, ce matin, nous rappelle son appel. Vous vous souvenez de ces premiers moments où on a commencé à connaître le Seigneur, ou plutôt il s'est fait connaître à nous? Alors pour certains, c'est quelques années, pour d'autres, c'est des dizaines d'années, etc. Mais Jésus se rappelle à nous ce matin, parce qu'il nous aime, et il veut opérer un signe de reconnaissance et de bienveillance. Dans l'état où nous pouvons être parfois, eh bien Jésus veut opérer ce signe de bienveillance et de reconnaissance. Juges 6-17, c'est Gédéon. Gédéon, pourtant Dieu se révèle d'une manière quand même extraordinaire, hein. Ben, il va le dire, Gédéon, verset 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. On peut ce matin, là aussi, bien être dans cette disposition de cœur. Seigneur, j'ai honte de moi, mais donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Tout simplement pour certains que tu m'aimes, c'est peut-être très basique parfois. Hein. Oh, quand même, on sait bien que le Seigneur nous aime, on sait bien que le Seigneur est toujours avec nous, etc. Mais peut-être que quelqu'un a besoin simplement d'être, entre guillemets, rassuré. Seigneur, montre-moi que tu m'aimes, que tu ne m'as pas oublié, que tu es avec moi. Donne-moi un signe en ma faveur pour me montrer que c'est bien toi qui me parles. Pour me montrer que c'est bien toi qui me parles. Le psaume 86, 17, j'aime bien également cette pensée. Accomplis un signe en ma faveur. Ceux qui me détestent le voient et soient honteux, car tu me secours et tu me consoles. Tu me secours et puis tu me consoles. Accomplis un signe en ma faveur. Et Pierre ne s'y trompe pas. Il dit, c'est le Seigneur. Hein. Il va donc se jeter donc à l'eau, donc dans sa fougue habituelle. Hein. Là encore, on reconnaît bien Pierre dans son caractère, mais Deuxième pensée pour nous, comment le Seigneur agit-il pour que nous puissions être libérés de cette honte parfois? Eh bien, en accordant un signe en notre faveur. Jean 21, versets 9 à 14. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque, tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, car il savait que c'était le Seigneur. Jésus va restaurer, va donner à manger de manière très concrète, très pratique d'abord à ses disciples. La nuit a été épuisante et frustrante. Et on connaît ces deux adjectifs, hein. Parfois, nous sommes épuisés et frustrés. Et ces disciples, ils sont épuisés et frustrés, malgré leurs efforts, malgré leur bonne volonté, malgré leur plan ingénieux, bien ces pêcheurs, cette nuit, n'ont rien pris. Et Jésus va leur préparer un copieux déjeuner. Quelle attention, quelle bienveillance. Hein, le barbecue est prêt, voilà, les braises sont là, etc. Il y a du pain et puis il y a du poisson. Quel accueil chaleureux! C'est un moment de restauration bienvenue qui tombe à pic. Je ne sais pas pour vous, mais les meilleurs repas, parfois, on ne les a pas payés excessivement cher à un restaurant 5 étoiles. Et peut-être qu'on a bien mangé. Peut-être que les meilleurs repas, ça a été un jour où on a pris une journée de galère, ça a été la tempête, etc. Et puis, on était accueillis, je ne sais pas, moi j'imagine, dans un chalet, alors il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il y avait des patates, des pommes de terre, je suis vosgien, donc j'aime bien les patates, voilà. Hein, un bon bol de soupe, et puis un bon feu de bois, et là on a apprécié. C'était les moments qui nous ont plu. Bien sûr qu'on a apprécié aussi certainement ce restaurant 5 étoiles, vous allez régulièrement tous les dimanches, hein, après le culte. Il n'y a pas de problème, la nourriture est excellente, etc. Il n'y a pas de problème. Mais on se souvient, et là, eh bien, du pain, des poissons attendent, et c'est un repas extraordinaire. Jésus va les restaurer. Jésus sait nous accueillir, nous restaurer lorsqu'on est en situation d'échec, de faiblesse, y compris dans ce qu'on sait faire. C'est peut-être le plus frustrant, hein. Ce sont des pêcheurs professionnels, ils savent manier le filet, ils connaissent les zones, ils connaissent ce lac, etc. Et pourtant, ils reviennent bredouilles dans ce qu'ils savent le mieux faire. Et parfois, dans nos vies, bien, on se plante aussi, on est en échec dans nos compétences. Et on dit, Seigneur, c'est pas vrai. Et c'est terrible, c'est un sentiment d'autant plus frustrant, puisque c'est nos domaines de compétences. Matthieu 11, 27 nous rappelle ceci. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On imagine, hein, les disciples vont s'asseoir, ils vont décompresser, ils vont un petit peu oublier cette nuit, etc. Ils vont partager, ils vont parler, ils vont mettre leur corps endolori un petit peu au repos, et puis là, eh bien, Jésus va les nourrir. Juste une remarque, j'avais jamais remarqué, hein, mais il y a quand même deux sortes de poissons sur ce barbecue. Vous avez remarqué? Il y en a déjà que Jésus a apporté avec ce pain. D'où viennent-ils? Je sais pas. Est-ce que Jésus les a achetés? Est-ce qu'il y a eu un miracle? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils sont là. Et puis Jésus leur demande aussi d'amener de leur pêche, hein, pour partager. Et ceux que les disciples, bien sûr, ont pêché. Et ce matin, on pourrait dire, Jésus, pour nous restaurer, eh bien, utilise ses compétences, son autorité, sa puissance, etc. Mais il utilise également notre foi, notre obéissance. Si les disciples n'avaient pas jeté leur filet au moment où Jésus leur a dit, eh bien, ils auraient eu, allez, on va dire, un repas simplement avec ce que Jésus leur avait préparé. Il aurait manqué quelque chose, hein, une double part pour Pierre et une triple part pour Jean, je ne sais pas. Mais Jésus a voulu que les deux soient réunis. Et il y a des temps dans nos vies où Jésus nous bénit en direct du ciel avec ce qu'il a préparé pour nous. Et puis, il y a des moments aussi où Jésus va se servir de notre obéissance, de notre foi, de notre reconnaissance. Et quelque part, eh bien, nous sommes honorés de ce que Jésus aussi utilise, notre obéissance, notre foi pour nous bénir. On est honoré, on est impliqué dans son œuvre. On n'est pas simplement là pour recevoir de lui toujours en direct. Mais il y a des moments dans nos vies où Dieu se sert également de notre foi, notre obéissance. Et c'est un sentiment là aussi qui naît dans nos cœurs de bienveillance et de reconnaissance. Et puis, ces 153 gros poissons n'ont pas été mangés immédiatement. Il a fallu ensuite vendre la pêche. Et puis cette pêche a permis aux familles de ces différents pêcheurs de vivre encore quelques jours. La restauration des disciples va devenir aussi une source de bénédiction pour les familles. Et quand je suis restauré, quand Dieu me restaure, quand Christ me nourrit, bien, je peux aussi nourrir, je peux faire bénéficier autour de moi de sa grâce et de sa bonté. Et puis, Jean 21, 15, verset 19, comment le Seigneur nous fait-il sortir de cette spirale infernale, destructrice ? Je ne suis pas à la hauteur. Eh bien, on va lire ces quelques paroles. Lorsqu'ils eurent mangé, vous avez remarqué, Jésus n'a pas entendu Pierre tout de suite. Il a d'abord mangé, restauré, détendu, etc. Et ensuite, eh bien, il est dit ceci. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Et lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Et lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. » Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture, te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Quatrième pensée, c'est que Jésus nous enseigne, il nous éduque. Il nous aide aussi à réfléchir, bien sûr, sur nous-mêmes. Il y a un temps pour tout. Après avoir mangé, après que le corps soit restauré, soit reposé, eh bien, Jésus va s'adresser au côté, on va dire, intellectuel, spirituel de Pierre. Et il veut vraiment que Pierre puisse réfléchir. Il va s'entretenir avec lui pour l'aider à prendre conscience de qui il est, mais également de qui il est avec Jésus. De qui il est, de qui il a été sans lui, mais de qui il est, de qui il sera avec lui. Il lui rappelle également que Jésus tient toujours ses promesses, que sa parole est éternelle. Vous vous souvenez de cette parole que Jésus va adresser à Pierre, à ses disciples. Il leur dira, bien, Pierre, Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Il les avait avertis. Mais quand tu seras revenu, quand tu seras revenu à moi, bien, tu pourras affermir. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. C'est comme si Jésus nous rappelait cette parole, non pas comme un reproche, mais avec tellement de bienveillance, de nous dire, eh bien, voilà, je prie pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et puis, s'il y a des chutes, s'il y a des moments de faille, vous trébucherez tous. Eh bien, je serai là aussi pour donner une deuxième, une autre opportunité, une nouvelle opportunité, afin que vous ne restiez pas dans ce sentiment. Je ne suis pas à la hauteur. Oui, Pierre n'était pas à la hauteur, les disciples n'étaient pas à la hauteur, nous ne sommes pas à la hauteur. Tout le monde, comme Pierre, dérape, chute, tombe. L'histoire de la Bible en est plein d'exemples, bien sûr, mais Dieu veut s'en servir pour l'intégrer dans son processus de croissance. Nos chutes, nos défaillances, Dieu les intègre dans un processus de croissance extraordinaire, ça. Comment Dieu peut changer le mal en bien, combien Dieu là aussi veut nous donner une nouvelle opportunité à nous de l'accepter. Alors, en conclusion, je ne sais pas s'il y a des joueurs d'échecs. Moi, je suis très très mauvais, je suis juste déplacer les pièces, c'est tout. Après, c'est la catastrophe, mais il y en a, ils sont 10, 20 coups, 30 coups à l'avance. Bon, et quand le roi est pris, qu'est-ce qu'on dit ? Échec et mat. Voilà. Échec et mat, c'est fini. Alors j'ai regardé, je dis, mais c'est quoi cette expression ? Ça vient d'où, échec et mat ? Parce que bon, alors c'est un terme technique. Alors ça viendrait du persan, c'est les sources Wikipédia. Ça veut dire chat mat. Shamat, voilà, je vous apprends du persan ce matin, le chat d'Iran, hein, voilà, mat, et ça veut dire roi pétrifié. Ça veut dire roi pétrifié. Je dis, tiens, échec et mat, ça c'est notre chair, l'adversaire, le péché, le monde qui va nous dire ce matin, eh bien, voilà, tu es échec et mat. Ce que tu es est pétrifié, le roi Jésus en toi est pétrifié. Voilà, tu es échec et mat. Mais si notre chair, si l'adversaire, si le péché, si le monde nous dit échec et mat, ce matin, Jésus nous dit échec et nouvelle opportunité. Échec et nouvelle opportunité. C'est pas échec et mat avec Jésus. C'est échec, oui, reconnaît, il reconnaît, je reconnais, mais échec et nouvelle opportunité. Avec cette parole, c'est échec et suis-moi. Échec et suis-moi. C'est pas échec et roi pétrifié qui bouge plus et ce matin, ne reste pas dans ton immobilisme, ne reste pas pétrifié, ne reste pas dans ce sentiment là aussi de surplace en disant je ne suis pas à la hauteur, mais laissons Jésus nous relever dans sa présence. Laissons Jésus bien se mettre à notre hauteur, à notre niveau. C'est l'histoire du bon samaritain, ça c'est une autre histoire. Mais ce matin, si dans nos cœurs il y a cette parole échec et mat, eh bien Jésus nous dit échec et nouvelle opportunité. Échec et suis-moi. Comme Pierre, comme les autres disciples, tout le monde dérape, tout le monde chute. Tout le monde à un moment donné eh bien, se retrouve dans ce sentiment. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que notre Seigneur n'a pas changé. Il est même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alors que le Seigneur vraiment nous encourage et ce matin, il nous rappelle, suis-moi. Qui que nous soyons, quel que soit, j'allais dire, eh bien, notre état spirituel, il nous dit, bien, continue, accroche-toi, suis-moi, parce que je suis avec toi. Amen. Te bénissons, Seigneur, ce matin pour ta parole. Te louons de tout notre cœur. Et je prie ce matin pour, finalement, chacun d'entre nous, il y a des domaines dans nos vies où nous reconnaissons, ou en tout cas nous sommes obligés de reconnaître parfois que nous ne sommes pas à la hauteur. Et alors il y a ces sentiments d'immobilisme destructeur qui s'invitent et qui nous bloquent. Et c'est cette réalité de dire, eh bien, je suis en échec et mat. Seigneur, ce matin, nous voulons entendre cette parole qui vient de toi, échec et nouvelle opportunité, échec et suis-moi. Merci Seigneur, merci vraiment pour ta compassion. Ce matin, nous bénissons ton nom parce que tu viens nous rencontrer sur le terrain de nos échecs, sur le terrain de nos faillites. Seigneur, tu es celui également qui opère des signes en notre faveur. Et il y a peut-être des bien-aimés ce matin qui ont besoin, qui te demandent un signe. Alors, accorde-leur un signe en leur faveur. Rappelle-toi à eux. Rappelle-toi, Seigneur, combien tu les aimes. Rappelle-toi que tu ne les as pas abandonnés. Même si les circonstances, Seigneur, sont difficiles, tu leur rappelles. Et puis, Seigneur, nous savons que tu es venu aussi pour nous nourrir, pour nous encourager par ta parole. Une parole qui vient de toi, qui vient du ciel. Mais aussi, Seigneur, des paroles de bénédiction lorsque nous obéissons à ta parole, lorsque nous te faisons confiance dans la foi. Merci de réjouir nos cœurs. Et puis, nous voulons te laisser aussi nous éduquer, nous laisser prendre conscience de certaines choses afin de grandir dans le nom de Jésus. Que ta bonne main soit sur nous. Et nous prions ce matin les uns pour les autres afin que tu nous accordes toute ta grâce dans le nom de Jésus. Amen.